Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 28 avril, 20 millions d'injections de vaccins ont déjà été pratiquées dans notre pays, mais il reste encore plus de 270 000 doses disponibles aujourd'hui. Faudrait-il élargir ou pas la vaccination avec aussi ces risques de manque? Nous verrons quelle est la situation dans le Gers avec le président du conseil départemental, Philippe Martin. Par ici la sortie de l'état d'urgence sanitaire était au menu du conseil des ministres ce matin. Nous verrons comment nos contraintes pourraient être allégées au mois de juin. Demain, tous surveillés, le projet de loi antiterroriste va permettre d'avoir accès à nos recherches internet et à nos smartphones. Dans RTL Midi aussi, nous serons en ligne avec la mère de Paimpol qui s'est fait traiter de cocotte et de maîtresse d'école par son prédécesseur en plein conseil municipal. PSG Manchester City pour rêver encore plus grand. Demi-finale allée de la Ligue des Champions, deux équipes au sommet de leur art. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Le soleil commence à se faire rare.
Et oui, c'est vrai qu'il est encore là pour l'instant au nord, mais ça ne va pas durer. Les nuages remontent et remontent vite du sud avec quelques averses. Les pluies au centre du pays remontent également vers le nord-est. Elles seront plus fréquentes cet après-midi avec un coup de tonnerre possible. La Côte d'Azur restera à l'écart, mais ça restera couvert. Et puis, les éclaircies reviennent quand même par la façade atlantique, le Poitou et les Pays de la Loire. Tout ça sous des températures encore douces au nord, mais en baisse au sud sous les pluies. Un petit 13 à Cherbourg, là ça ne bouge pas. 17 à Lyon, Bordeaux, Toulouse et Montpellier. 18 à Toulon, 20 à Paris et Reims et 23 à Strasbourg.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il élargir la vaccination? Vous êtes 81% à nous dire oui, à 12% de non seulement. On attend vos appels, vos arguments au 3210. Bonjour Pascal.
Bonjour, on peut estimer effectivement que c'est une forme de bon sens. Faut-il permettre à des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de pouvoir se faire vacciner dès maintenant? On reviendra évidemment sur Je te parle comme je veux, ma cocotte, oui ma maîtresse, et ça on va l'entendre dans votre journal, la réaction à la mère de Paimpol. Nous pourrons parler également du Rassemblement National. Est-il un parti de putschistes? C'est ce que pense la ministre Marlène Schiappa. Est-ce que vous pensez, d'une manière générale, que c'est contre-productif d'attaquer le Rassemblement National de cette manière-là? Et puis, PSG Manchester City, et comme vous le savez, je ne me trompe jamais sur les pronostics. Donc, je dirais simplement, allez Paris.
Voilà, on y reviendra tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer, un petit objet qui va sauver des vies. Connaissez-vous l'oxymètre? C'est une pince que l'on met au bout du doigt et qui permet de mesurer le taux d'oxygène dans notre sang. Aujourd'hui, rares sont les patients atteints du Covid qui se le voient prescrire par leur médecin. Mais face à la déferlante de patients dont l'état se dégrade très vite et qui arrivent directement en réanimation à l'hôpital, eh bien, l'usage de cet oxymètre va être considérablement élargi à Gatlandais.
Oui, car cet appareil permet de se surveiller donc à la maison pour les personnes testés positifs et qui sont à l'isolement chez elles. Grâce à cet oxymètre, elles vont pouvoir surveiller toutes seules leur taux d'oxygène dans le sang. Car le problème, c'est que quand notre saturation baisse, on ne le sent pas forcément. On n'a pas tout de suite du mal à respirer, mais grâce à cet appareil médical, on nous l'indiquera. Et si votre taux baisse, vous pourrez alors être hospitalisé tout de suite pour recevoir un traitement sous oxygénothérapie. Une prise en charge très précoce limite énormément les risques d'aller en réanimation. Aujourd'hui, cette surveillance à la maison n'était pas remboursée, ce sera le cas désormais. Les médecins vont proposer systématiquement à certains de leurs patients de louer en pharmacie ce matériel médical pendant 2 semaines. Enfin, 3 types de patients y auront droit. Les personnes de plus de 65 ans, les patients qui ont un facteur de risque de faire une forme grave, mais aussi toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui ont une forme pulmonaire de la maladie, même quand ils ne souffrent que d'une petite toux.
Donc ce sera prescrit et remboursé, bien sûr.
Oui, et très largement, du coup.
Merci Agathe. L'hôpital est toujours sous forte tension, même si le nombre de malades en réanimation est repassé sous la barre des 6000 hier. 484 nouveaux malades ont été admis ces dernières 24 heures. Partons dans le Nord, l'un des départements les plus touchés, où l'étau se desserre peu à peu, Franck Hanson.
Oui, le nombre de contaminations toujours élevé diminue certes lentement, avec un taux d'incidence dans le Nord désormais à 365 cas pour 100 000 habitants, après avoir flirté les 500 début avril. Dans les hôpitaux, la pression reste forte, notamment en réanimation, avec un triste record de 360 malades Covid, le plus haut niveau depuis le début de la pandémie. Pour autant, au CHU de Lille, on note une certaine tendance à l'accalmie, veut espérer le directeur Frédéric Boiron.
C'est difficile, mais on est capable d'assumer ça, on pourrait même aller plus loin. Depuis depuis quelques semaines, ce chiffre n'augmente plus, il a même un peu diminué. Si on prend tous les malades, notre pic, c'était 200 patients en même temps. Aujourd'hui, on est autour de 170. On espère voir la lumière là dans les jours et semaines qui viennent.
À Dunkerque, les premières mesures de restriction ont, semble-t-il, permis de freiner la circulation du virus. Le taux d'incidence de l'épidémie y est désormais 3 fois moins fort que dans le secteur de Maubeuge. Les autorités sanitaires des Hauts-de-France appellent à maintenir la vigilance sur le front de la vaccination. 1 million de doses de vaccins ARN type Pfizer sont attendues en mai dans la région.
Franck Hanson, du côté de la vaccination. Donc la barre symbolique des 20 millions d'injections a été franchie hier, en comptant à la fois les premières et les deuxièmes doses. Ce matin encore, d'après le site Vite Ma Dose, 274 000 créneaux de vaccination sont encore disponibles. C'est normal, expliquait hier Olivier Véran, le ministre de la Santé, puisque de nouvelles doses viennent d'arriver en masse. Mais faudrait-il ouvrir la vaccination? C'est la question que l'on vous pose sur RTL.fr. Et sur laquelle vous allez revenir avec les auditeurs au 3210, Pascal Praud.
Effectivement, Christelle. Alors, moi, j'ai fait un truc simple. Je suis allé sur Doctolib pour une première injection de Pfizer. Je suis à Paris, c'est le Stade de France. Je regarde les créneaux de demain. Ça commence à 12h25. Le premier créneau disponible et le dernier à 17h55. Entre-temps, il y a 38 créneaux disponibles, donc qui ne sont pas remplis. Vendredi, il y en a 59. C'est-à-dire que si on n'y va pas, ces doses, je ne sais pas ce qu'on en fera. Alors oui, il faut élargir aux États-Unis. Tous les jeunes de 18 ans sont aujourd'hui vaccinés par Johnson. Les profs, les étudiants, les travailleurs, les commerçants, tout le monde est vacciné. Et comme il faut atteindre l'immunité collective pour que la vie reprenne et que cette immunité collective, on dit qu'elle est à 60 ou 70% de vaccinés, ben, il y a une forme de bon sens à dire passons tous à la vaccination et que les critères d'âge, de comorbidité, etc. Tombent.
Tous en même temps. Ben, on va faire le point justement, c'est intéressant, avec Virginie Garin. Vous allez voir que c'est pas forcément si simple. Anne Hidalgo, la maire de Paris, dit à peu près la même chose que vous, Pascal, ce matin. Elle demande de
c'est
nouveau plus de souplesse.
Donc,
oui.
Je la félicite.
Elle veut débrider la question de l'âge. Est-ce que c'est vraiment possible, Virginie, aujourd'hui, d'ouvrir la vaccination pour tous?
Alors, pour tous, non. Si on veut continuer à vacciner les personnes les plus fragiles en priorité, il n'y a pas assez de doses pour l'instant. Plus de la moitié des 60-69 ans, par exemple, n'ont pas encore reçu d'injection. Alors, il y a un calendrier prévu. En fonction des livraisons prévues, la prochaine étape, c'est le 15 mai pour les plus de 50 ans.
Alors, comment expliquez-vous qu'il y ait autant de doses disponibles?
Alors, il y a eu une arrivée, c'est vrai, une arrivée de vaccins Pfizer massifs ces derniers jours, ce qui a permis de proposer plus de 200 000 rendez-vous sur les plateformes, mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Et ça va s'amplifier. Plus de 2 millions de doses d'AstraZeneca arrivent demain en France. Le ministre de la Santé a demandé aux prioritaires de s'inscrire. S'il constate, dans les jours qui viennent, que les rendez-vous restent libres, il n'exclut pas d'accélérer le calendrier, comme il l'a déjà fait pour les 50-60 ans, il y a deux semaines. Pourrait rapidement ouvrir la vaccination, par exemple, aux personnes obèses qui sont à risque.
Donc ça pourrait encore bouger dans les jours qui viennent.
Exactement.
Est-ce qu'il y a beaucoup de doses perdues en ce moment ?
On n'a pas de chiffres. 5% de pertes ont été prévues dès le départ pour des problèmes de transport, de conservation. Après, la doctrine du gouvernement, c'est justement ne pas perdre de doses. Donc, quand un centre a des flacons ouverts, même si vous n'êtes pas éligible, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente ou aller faire la queue à la fermeture. On appelle les gens, d'abord les 50 ans, ensuite les 40. Vous avez le droit d'être vacciné. Même chose chez les médecins et les pharmaciens. Ils appellent en dernier recours des patients plus jeunes. Selon le syndicat MG France que j'ai contacté il y a quelques instants, il y a très peu de doses perdues.
Merci Virginie. Alors partons voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. Nous sommes avec Philippe Martin, président du conseil départemental du Gers. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez monté un vaccinodrome à Auch. Seulement 820 rendez-vous ont été pris sur 2000. On parle de doses Pfizer. Hein. Là, il n'y a même pas de débat sur AstraZeneca. Comment vous l'expliquez ?
D'abord parce qu'on est un département, le Gers, qui a un taux d'incidence très bas, le plus bas de la région Occitanie, un des plus bas de France. On a beaucoup, beaucoup vacciné des personnes qui ont plus de 70 ans, 75 ans. Donc il y a un ralentissement aussi de la demande. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incroyable et d'un peu choquant de se dire qu'on a été obligé de ne pas décongeler 1200 doses hier parce que nous n'avions que 820 rendez-vous alors qu'il y avait 2000 possibilités capacité pour le centre de vaccination de grande capacité d'Auch, et que samedi prochain, il y a à nouveau ce centre qui sera ouvert et qui pourra aller jusqu'à 2000 vaccinations, et qu'au jour où je vous parle là, nous avons moins de 900 réservations, et que demain après-midi, nous arrêterons les réservations parce que il y a 48 heures pour décongeler ces doses. Je rassure Pascal Praud, elles sont pas jetées, elles sont congelées ou décongelées, donc on ne les perd pas. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable de se dire que en deux jours, on va ne pas vacciner 2000 personnes qui auraient pu l'être, en sachant que aujourd'hui, dans notre plateforme de réservation, 60% des gens qui nous appellent sont des gens qui ont moins de 60 ans et à qui on est obligé de dire non, non pas parce qu'on n'a pas les doses, mais parce qu'on n'a pas l'autorisation de les vacciner.
Oui, il y a Virginie Garin qui a une question pour vous.
Une information, le ministère de la Santé n'exclut pas dans les départements comme le vôtre où il y a beaucoup de doses disponibles, d'accélérer le calendrier. Donc ce serait territorialisé comme on dit en ce moment. Et il pourrait y avoir des décisions assez rapides.
Je crois que ce serait des décisions de bon sens parce que on peut pas arrêter une stratégie vaccinale au plan national uniquement sur le système D en disant passez, on sait jamais s'il vous en reste, on vous fera la vaccination. Moi je ne demande pas à enfreindre la loi, je demande à ce que territorialement parlant, on puisse se dire dans le Gers, il y a les infrastructures, il y a les gens pour vacciner, il y a les doses qu'il faut, il y a déjà beaucoup de gens qui ont été vaccinés, la CPAM relance en permanence les gens qui ont plus de 60 ans pour leur dire venez vous et faites-vous vacciner. Si jamais, malgré ça, on continue d'avoir des doses qui sont non utilisées ou en tout cas qui ne donnent pas lieu à un rendez-vous, alors il faut ouvrir à toutes les classes d'âge parce que les gens qui seront vaccinés aujourd'hui auront leur rappel avant l'été et pourront passer un été dans un mécanisme d'immunité qu'effectivement nous essayons d'atteindre à l'échelle du département et bien sûr à l'échelle nationale.
Est-ce qu'il y a du système D chez vous, comme vous y faisiez allusion à l'instant?
Non, il n'y a pas de système D. Le seul système D, c'est le gel hydroalcoolique qu'on a, qui est fait avec de la blanche d'Armagnac et qui permet d'avoir une vision plus euphorique de la situation actuelle. Mais pour le reste, non, il n'y a pas de système D. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut pas, d'un seul coup, il y a des gens qui se débrouillent et puis d'autres qui n'y arrivent pas. Je pense que l'État doit, l'État, le préfet de mon département, le délégué de l'ARS de mon département, doit constater la situation, se dire qu'il y a une possibilité et d'accroître effectivement la vaccination. C'est quand même idiot que sur une semaine, on ait 2000 personnes qui auraient pu être vaccinées avec du Pfizer, qui ne le seront pas, sous prétexte qu'effectivement, ils ne rentrent pas dans la classe d'âge. Ce sont des actifs, ce sont des jeunes. Ils appellent, moi, l'idée que j'entends, les jeunes n'auraient pas envie de se faire vacciner. Nous, on a énormément de jeunes qui appellent les infirmières, qui appellent l'hôpital, qui appellent notre centre de vaccination pour dire quand est-ce qu'on peut se faire, parce qu'ils voient bien que c'est la seule façon de reprendre une vie normale et d'avoir une deuxième vaccination avant l'été.
Voilà, merci Philippe Martin, président du conseil départemental du Gers, qui appelle justement à ouvrir, à élargir la vaccination. Et ensuite, à quoi va ressembler la sortie progressive du confinement? Le couvre-feu sera-t-il décalé? Y aura-t-il des mesures territorialisées? Emmanuel Macron s'exprimera dans les prochains jours, mais ce matin, en conseil des ministres, le gouvernement a adopté son projet de loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire le 2 juin. Jacques Serey, vous êtes à l'Élysée pour RTL. Qu'est-ce que ça va changer?
Eh bien concrètement, le gouvernement n'aura plus le droit de confiner l'ensemble du pays ni de décréter un couvre-feu identique sur l'ensemble du territoire. C'est un texte de sortie de crise, mais cela ne veut pas dire que la liberté redevient totale jusqu'au 31 octobre. Ce texte accorde certaines compétences exceptionnelles au Premier ministre, comme la possibilité de prendre des mesures localisées par décret en cas de circulation active du virus, par exemple interdire la circulation des personnes et des véhicules. L'état d'urgence pourrait quand même être de nouveau déclaré, mais ce serait là aussi seulement à l'échelle locale et pour un délai de 2 mois maximum. Même chose pour le couvre-feu. S'il est levé à l'échelle nationale, le Premier ministre se réserve le droit de le décréter là où il le jugera nécessaire. Et ce serait pareil pour d'éventuelles nouvelles mesures de restriction pour les restaurants, les commerces ou les salles de spectacle. Cette date du 2 juin est donc très symbolique. La France ne sera donc plus en état d'urgence sanitaire à proprement parler. Mais avec ce virus, le gouvernement reste sur ses gardes et il aura les moyens de restreindre les libertés en cas d'explosion des contagions. D'ailleurs, les dispositions peuvent encore être modifiées et durcies d'ici le 10 mai et l'arrivée de ce projet de loi au Parlement.
Jacques Serey à l'Élysée pour RTL. En Inde, la situation est catastrophique. Le nombre de morts a dépassé la barre des 200 000. Aujourd'hui, le variant indien est présent dans 17 pays. Il n'a pas été détecté en France. Le laboratoire BioNTech se dit confiant dans l'efficacité de son vaccin développé avec Pfizer. Dans un instant, une affiche de rêve ce soir au Parc des Princes. Le PSG reçoit Manchester City. RTL.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Duel au sommaire, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG reçoit Manchester City. On s'attend à du grand spectacle, beaucoup de combativité. L'effectif parisien est au complet. Mbappé au taquet, Neymar n'est pas blessé. Mais il ne faut pas oublier, Nicolas Georgiou, que l'équipe de Manchester City est elle aussi au meilleur de sa forme.
Oui, le futur champion d'Angleterre commence d'ailleurs à récolter les récompenses. Vainqueur de la Coupe de la Ligue ce dimanche, il est en lice pour un triplé avec le championnat et la Ligue des Champions. L'une des stars, Kevin De Bruyne, touché à la cheville, un temps incertain, sera bien là sur la pelouse du Parc des Princes face aux Verratti, Neymar, Mbappé. Le mot d'ordre de l'entraîneur Pep Guardiola, s'affranchir du contexte.
La seule chose à faire, c'est de profiter de ce genre de match, savourer la pression, les responsabilités, savourer le fait que peut-être cette occasion ne se représentera pas. C'est ce que je veux voir chez mon équipe et c'est ce que nous allons essayer d'accomplir.
Sérénité, calme, confiance, et c'est ce qu'on a beaucoup entendu des deux côtés ces dernières heures dans les prises de parole. Au PSG qui a renversé le Barça et le Bayern au tour précédent, et bien Manchester City oppose son bilan. Le club anglais n'a pas encore perdu un seul match cette saison en Ligue des Champions.
Bon, et ce duel, Nicolas, c'est aussi une guerre d'image entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis.
Oui, entre les propriétaires des deux clubs via des fonds d'investissement, affiches prestigieuses, lutte d'influence. 2016 est encore dans les têtes des décideurs parisiens quand Manchester City avait éliminé le Paris Saint-Germain en quart de finale. Un affront s'était vécu comme tel, une confrontation donc scrutée de près à Doha, car sortir le club appartenant au voisin du Golfe donnera le sentiment d'une montée en puissance régionale et internationale du Qatar à un an de la Coupe du Monde qu'il organisera.
RTL Foot spécial demi-finale de la Ligue des Champions à suivre à partir de 20h45 sur RTL. Deux des 35 attentats déjoués depuis 2017 l'ont été grâce aux traces numériques. C'est avec ce constat, entre autres, que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, défend ce matin son projet de loi antiterroriste présenté en Conseil des ministres. Un texte qui prévoit de s'appuyer sur les algorithmes pour resserrer la surveillance numérique sur Internet et sur les smartphones. Le système expérimenté depuis 2017 serait pérennisé et il pose évidemment un certain nombre de questions sur nos libertés. Thomas Proutot, on serait donc tous surveillés ?
Alors oui, la loi autorise les algorithmes à ingurgiter les données de connexion de tous les utilisateurs des réseaux Internet et téléphones français sans distinction. Mais en pratique, chaque algorithme a un objectif précis et se limite à une catégorie d'utilisateurs, selon l'emplacement géographique par exemple. Et il y a un garde-fou selon le gouvernement, les données restent strictement anonymes. L'algorithme sait seulement que A a contacté B et l'anonymat n'est levé que si une menace est détectée.
Mais ça concerne toute notre vie numérique ?
Alors non, car les algorithmes, c'est important de le souligner, n'ont pas accès au contenu de vos messages, de vos appels téléphoniques, SMS, Snap ou autres. C'est boîtes noires du web se limiteront entre guillemets à qui a contacté qui, où et comment. Mais à cela vont s'ajouter, si le projet de loi est adopté, les URL consultées par tout un chacun, c'est-à-dire les sites que vous consultez et les mots saisis dans les moteurs de recherche. Par exemple, fabrication bombe artisanale, une disposition sensible dénoncée par les défenseurs des libertés publiques, car vos recherches d'Internet, c'est un peu de votre vie privée.
Et est-ce que cette surveillance aurait pu permettre d'éviter l'attentat de Rambouillet vendredi ?
Alors non, Laurent Nunez, le coordinateur national de la lutte antiterroriste, le dit lui-même. L'assassin de Stéphanie Monfermé a agi seul. Aucune menace n'est détectable en amont. En revanche, le jeune Tchétchène qui a tué le prof d'histoire Samuel Paty en octobre était en contact sur Internet avec des djihadistes syriens. Si le bon programme avec les bonnes données avait existé, ce qui est techniquement loin d'être gagné aujourd'hui, l'assaillant aurait peut-être pu être intercepté à temps.
Thomas Proutot, quant à l'attentat de Rambouillet, deux cousins du terroriste ont été remis en liberté hier soir sans faire l'objet de poursuites. Emmanuel Macron se rendra demain aux obsèques privées de Stéphanie Monfermé, cette fonctionnaire de police assassinée. Jean Castex présidera lui vendredi une cérémonie d'hommage national à Rambouillet.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Si la parité progresse numériquement en politique, le sexisme, lui, a bien du mal à disparaître. On se souvient en février dernier de cette députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, traitée de poissonnière et de folle à l'Assemblée nationale. Et bien cette fois, c'est au conseil municipal de Paimpol que la maire socialiste Fanny Chappé a été prise à partie par son prédécesseur lundi soir. Écoutez cet échange.
Et j'ai le droit de répondre, maîtresse, ou tu vas encore m'empêcher de parler?
Franchement, monsieur Martin, vous ne me parlez pas comme ça. Alors non, là, non. Je te parle comme je veux, ma
cocotte. Non. Parce qu'il y a un règlement intérieur. Vous m'appelez encore une fois maîtresse. Je vous demande de sortir du conseil municipal. Je suis madame la maire.
Ah, pardon ?
Madame la maire à la place de ma cocotte maîtresse. L'élu a ensuite raconté l'échange sur Twitter et nous sommes justement avec elle. Bonjour Fanny Chappé.
Bonjour.
Pour vous, c'est du sexisme ou de l'impolitesse ?
C'est indissociable, les deux, impolitesse et sexisme. Je ne crois pas que cet élu, en tout cas je ne l'espère pas, je ne l'ai jamais entendu s'adresser à un homme, parce que c'est un élu qui fréquente de nombreux réseaux depuis des années, en le disant « je te parle comme je veux, mon poulet ». Jusqu'à preuve du contraire, c'est quelque chose qui était particulièrement adressé, en l'occurrence qui m'était adressé, et c'est bien « je te parle comme je veux, ma cocotte ». Ouais. Donc effectivement, oui, je considère que c'est du sexisme.
Et celui qui a tenu ces propos, donc, c'est Jean-Yves de Chaise-Martin, qui a été maire de Paimpol juste avant vous. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'une revanche politique plutôt que du sexisme ? Ou les deux, d'ailleurs ?
C'est l'ambiguïté dans laquelle il pourrait, en tout cas certains pourraient s'engouffrer. Moi, vraiment, ce que je tiens à dire, c'est qu'au-delà d'un clivage politique, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Sinon, on leur trouvera toujours une excuse. Alors on va pouvoir dire, oui, c'est peut-être que de l'impolitesse. Finalement, on pourrait avoir tendance à banaliser ce genre de propos. Ou de dire, oui, bon, c'est un revanchard. Ou oui, c'est un mauvais perdant. Ou finalement, c'est quelque chose qui existe entre vous deux, comme certains journalistes ont pu le dire ce matin, des journalistes locaux. Il y a un point de vigilance. Vraiment, c'est ce sur quoi je m'exprime et je tiens à m'exprimer aujourd'hui. C'est qu'il n'y a aucune excuse à ce genre de propos. Mmh. Et aucun clivage politique ne peut justifier que l'on s'adresse à une femme, à une mère, sur ce ton-là.
Et justement, vous
avez... c'est des comportements déviants. En fait, c'est comme s'il y avait. Il faut, à aucun moment, il faut faire croire que ce sont des propos normatifs. Il n'y a pas de normes. Non, là, les propos étaient déviants. Il faut juste reposer le cadre.
Alors, justement, il a réagi, hein, votre prédécesseur, sur Facebook, se défendant de toute misogynie. Mais pour autant, il ne s'excuse pas.
À lui de juger s'il considère qu'il est sorti du cadre ou pas. S'il considère qu'il n'est pas sorti du cadre et que ses propos n'étaient pas déviants, ça renforce la gravité. Ça veut dire qu'on voudrait faire croire aujourd'hui qu'il est normal de s'adresser à une femme mère en lui disant « je te parle comme je veux, ma cocotte, oui maîtresse, non maîtresse ». Ça veut dire que justement, c'est là que c'est grave. C'est-à-dire que moi, j'ai laissé 24 heures de réaction pensant très honnêtement que cette personne-là allait s'excuser. Elle ne le fait pas. En plus, elle réitère et assume. Et c'est là que ça devient vraiment grave. C'est-à-dire que nous avons un élu, nous devons être exemplaires, les élus, qui dit finalement non, non, c'est normal et j'assume.
Juste une dernière question rapidement, Fanny Chappé. Est-ce qu'au quotidien, vous le vivez, ce sexisme, ou pas ?
Je le vis, ce sexisme. Alors, de façon... aussi grave, non. Par contre, c'est une forme de sexisme que je dénonce, c'est justement cette banalité. Je me rencontre vraiment au quotidien, des fois je dénonce des attitudes, on me dit « oh, c'est pas grave » ou « c'est comme ça ». Non, il faut surtout pas croire que c'est comme ça. Le problème, c'est que finalement, ça devient une espèce de quotidien et puis finalement, on a tendance à excuser ça. Ça, c'est du sexisme. Il y a des comportements que je subis parce que très clairement, je suis une femme. Et là, le risque à chaque fois, c'est de dire « ouais, elle se victimise ». Ah voilà, c'est une femme qui se victimise, oh, c'est un combat féministe qui est le malvenu. Mmh. Et c'est là toute la difficulté de faire comprendre que ces propos-là ne sont pas tolérables aujourd'hui. Et c'est toute la difficulté, puisque à chaque fois, on va nous dire « bah non, écoutez, là, vous êtes en train de vous victimiser, et comment vous pouvez prouver que c'est parce que vous êtes une femme que vous avez subi ce genre de propos ?» Et bien dans ces cas-là, il y a un effet miroir. Est-ce que vous avez beaucoup de femmes qui ou beaucoup d'hommes qui s'adressent comme ça à des hommes ? Non. Non, jamais vous entendrez mon poulet, mon lapin ou mon coco adresser à un homme. Non,
c'est vrai. Donc, que c'est beaucoup plus rare, hein, même à l'Assemblée nationale. Mais merci beaucoup, merci Fanny Chappé d'avoir témoigné sur RTL, la maire de Paimpol.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et le coup de cœur nous emmène aujourd'hui dans la région Centre, plus précisément à Loche, où les rares commerçants qui ont le droit d'ouvrir ne laissent pas tomber ceux qui sont fermés. Ils leur proposent des emplacements dans leur propre vitrine, Christian Panvert.
C'est le cas de la librairie papeterie du centre-ville qui a décidé d'offrir des emplacements dans sa vitrine aux produits de commerçants fermés administrativement. Valérie Duquesnoy, la gérante, explique pourquoi.
On veut absolument que les petits commerces puissent continuer à vendre sur rendez-vous leurs produits. Ça peut être un petit plus.
Adeline tient une boutique de lingerie. Elle présente des soutiens-gorge et ça marche. Une de ses clientes l'a appelée ce matin.
Je veux l'ensemble bleu canard de la librairie. C'est celui-là que je veux. Je l'ai vu, je le veux.
Pas très loin, Caroline gère un dépôt-vente de vêtements pour enfants. Elle expose aussi dans la vitrine de la librairie.
Les gens continuent à venir à la librairie, voient les vêtements. On a notre petite carte flyer affichée avec les coordonnées et ça permet d'exister encore un peu.
L'initiative fait l'unanimité à Loche.
C'est une magnifique preuve en fait de solidarité. Et je pense que ça fait du bien.
Excellent, il faut soutenir les autres commerçants qui sont fermés, les dits entre guillemets non essentiels.
Le commerçant solidaire fait un geste supplémentaire. Tous les clients qui réalisent un achat de 50 euros minimum dans un des commerces concernés par une fermeture bénéficient d'une réduction dans sa librairie.
Belle solidarité illustrée par Christian Panvert, merci. C'est le moment de retrouver Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans 3 minutes au 32-10. Pascal, vous nous épargnez votre pronostic pour le PSG.
Bien sûr, je vous épargne. Je vous épargne. En revanche, votre question à la mère de Papa était formidable. Vous avez dit impolitesse, sexisme. Vous auriez pu ajouter ou bêtise aussi. Mais c'est évidemment du sexisme. Pourquoi ? C'est un mâle, M-A-L-E, touché dans sa vanité, son orgueil, parce qu'il a perdu sa mairie, battu par une femme et qu'il ne considère, et qu'au fond il considère qu'une femme ne doit pas être au-dessus de lui. C'est ça.
Donc sinon c'est une cocotte quoi.
Exactement. C'est vraiment au cœur. C'est-à-dire que c'est un homme d'une autre génération qui considère qu'une femme, en gros, ça doit rester à la cuisine. Voilà. Et c'est vraiment du sexisme. Moi, je l'interprète comme ça, mais on pourra poser la question aux auditeurs.
Avec plaisir. En tout cas, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Peggy Broche, du côté de la météo, on se dépêche de profiter de la douceur.
Oui, alors même s'il y a un petit 13 au Havre et 14 à Brest, ailleurs, c'est beaucoup plus doux. On est au-dessus des normales, 17 à Nantes comme à Marseille, 18 à Agen, Bordeaux et Besançon, 20 à Paris et à Tours, 22 à Mulhouse et 23 à Strasbourg. Côté ciel, il reste encore un peu de soleil au nord, mais les nuages arrivent vite avec quelques averses. Il a déjà bien plu ce matin dans les régions centrales du pays et les pluies remontent actuellement sur le nord-est. Elles seront fréquentes et localement orageuses cet après-midi. La Côte d'Azur reste sous les nuages mais au sec et les éclaircies reviennent quand même cet après-midi par la façade atlantique.
Merci Peggy. Le rappel des titres dans un instant sur RTL.
RTL Midi.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Latifa est déjà avec nous et la question du jour, c'est faut-il élargir la vaccination, notamment aux plus jeunes. Bonjour Latifa, vous êtes médecin.
Bonjour, je suis médecin généraliste dans le Loiret et je pense que selon les territoires, il faut effectivement élargir la vaccination.
Ça va être notre débat dans quelques secondes. Notre questionnement... Christelle le rappelle des titres.
PSG Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir. Le Bayern Munich passait pour une montagne, les Anglais de Manchester pour un Everest. Le spectacle promet d'être offensif avec un effectif parisien au complet et en forme. Une nouvelle loi antiterroriste présentée 5 jours après l'attaque de Rambouillet, elle était déjà programmée. Elle prévoit entre autres une surveillance numérique renforcée. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin affirme que sur les 35 attentats déjoués depuis 2017, 2 l'ont été grâce aux traces numériques laissées par leurs auteurs. Plus de 200 000 morts du Covid en Inde, l'épidémie flambe. Le fondateur du laboratoire BioNTech se dit confiant dans l'efficacité de son vaccin ARN messager qu'il a développé avec Pfizer. Emmanuel Macron veut régler un vieux litige avec l'Italie sur d'anciens membres des Brigades Rouges réfugiés en France. 7 viennent d'être arrêtés, 3 sont recherchés. Tous avaient été condamnés en Italie pour des actes de terrorisme commis dans les années 70-80. Mario Draghi, le Premier ministre italien, exprime à haute voix sa satisfaction et évoque une blessure qui est encore ouverte.
Les auditeurs ont la...